Alors, je remercie les gens qui sont encore là, certains qui sont là depuis ce matin, 10 heures dans la chaleur et la moiteur. On fait la dernière table ronde avec une table ronde qui. Colin, tu peux t'installer là, tu as une place à côté de Greg. Ah, bah, si tu veux, prends le petit orange si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc là, on va enchaîner pour la clôture de cette journée PIND, Punk is not dead. Donc ce projet de recherche qui, vous l'avez compris, est un projet de recherche interdisciplinaire avec différents temps, puisque c'est la 20e journée, 20e journée d'études sur le PIND, sur le punk. Et là, c'est le punk à Lyon, la scène punk à Lyon. Et sur la scène, forcément, on va travailler autour des lieux, des espaces. On a pris beaucoup de retard. Vous l'avez constaté. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui attendent, qui attendent, qui attendent. Et alors, on va tenir compte de ce retard, hein. C'est pas pour jouer la montre et faire le Cerbère du temps qui passe, mais il y a des gens qui bossent parmi les punks, ou qui travaillent dans le punk, et voilà, il y a des chefs d'entreprise. Mais surtout, je crois qu'il y a Karl et Nico qui doivent partir assez tôt, donc on va voir. Enfin, si jamais, voilà. Donc ce que je ferai, même si c'est pas très conceptuellement parfait, je solliciterai plutôt les gens qui doivent partir en priorité, voilà, et puis après on discute. Bon. Et du coup, ça va modifier un petit peu la présentation que j'avais prévue autour de la question chronologique, puisque je pensais partir des plus anciens vers les plus jeunes. Et puis en fait, on s'en fout un peu, quoi. C'est ce qu'on a déjà fait ce matin. Alors, j'ai juste présenté les gens rapidement. Vous avez Marie-Claire Corda, que certains ont déjà entendu, ceux qui étaient là ce matin et tout à l'heure. Et vous avez vu, bon, puisque c'est elle qui a fait ses montages, notamment. Alors, j'ai un petit faible pour le montage qui est juste derrière, qui est un montage fait avec les affiches du Pesner, qui sont des affiches que tous les gens qui connaissent le Pesner ont envie d'avoir chez eux. Et que tous les gens qui ont vu Marie-Claire Corda faire ce montage ce matin ont pleuré de voir les affiches déchirées. Et là, c'est vraiment une question de patrimonialisation. Que fait-on des archives? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les met dans les musées? Ou est-ce qu'on les colle là? On n'en a rien à faire finalement. Et puis c'est quoi? Elle a créé une œuvre, oui. Prends ton micro, prends le micro. Prends le micro. Ouais, bon, on a attendu. À côté de Marie-Claire, quelqu'un qu'on a aussi vu, c'est Greg. Alors, tout à l'heure, Greg nous a présenté son travail de géographe, qui est vraiment, vous l'avez compris, un travail qui est vraiment super intéressant et qui peut être utilisé dans plein de domaines. En tout cas, c'est vraiment. On a envie de voir ce que va donner ta thèse et surtout qu'est-ce que tu vas pouvoir produire derrière avec cet outil. Mais Greg, qui n'est pas là en tant que géographe, qui est là pour parler du Ground Zero, dont on a déjà parlé un petit peu depuis ce matin. On a ensuite Karl. Karl qui vient parler d'un. Alors, vous avez vu sur le programme, on a parlé de Givors au Troxon. Et le Troxon, bah, c'est un bar qui est sur les pentes de la Croix-Rousse, qui programme du punk. Donc, il nous en dira quelques mots. Au centre, Marquis. Alors, ce n'est pas n'importe quel Marquis, c'est l'original. Parce qu'il y a eu des copies à Lyon, les copies ont été effacées depuis, il ne reste que lui. Marquis qui est. Alors, il n'est pas là. Vous allez me dire pourquoi Marquis? Marquis, c'est un perceur. Il fait des trous dans la peau, dans les oreilles, etc. Pourquoi il vient parler à une table ronde sur les lieux? Et parce que c'est un peu une mémoire des lieux. C'est quelqu'un qui a parcouru tous les lieux et c'est plutôt que chacun qui va parler de son lieu, on a quelqu'un qui va montrer comment on partait de tel endroit pour aller à tel autre et comment un pilier de bistrot. Ça n'engage que toi, mais il dit oui. D'accord. J'assume. Arthur, qui est là et qui va représenter la lutine, qui est rue Montesquieu. 91 rue Montesquieu. Et voilà. Ici, donc, on a Nico qui va parler, nous, ici, du Farmer, qui est un autre bar qui produit, enfin, qui programme du punk, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse également. Et puis, invité, pas surprise, mais de dernière minute, comment? Invité de marque, invité de dernière minute, mais invité qui est lié aussi au comment on fait une journée comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on prend des contacts, on rencontre des gens, et là, finalement, Colin va nous parler des squats lyonnais, et c'est quelque chose qui, enfin, sa présence est liée à des rencontres et à des gens qui m'ont dit, faut que tu contactes Colin, et puis finalement, effectivement, Colin n'est pas sur le programme, parce que on a une certaine, j'irais inertie pour faire les choses, mais Colin est là et va nous parler aussi de tout ce qui s'est joué autour des squats lyonnais, avec quand même quelque chose qui est, je pense, une marque locale, une marque de ce qui s'est passé. Alors, avant de partir, oui.
Dioxine, il devait parler de Volnitsa. Est-ce que tu as envie ou je résume?
Ok.
Je résume alors.
Ce qu'on peut faire, Laurent, j'interviendrai, je te ferai passer le micro dans le débat. Donc il y a la censure, on a compris. Donc ce que je vous propose de démarrer, peut-être, je vais partir à l'envers, hein, faire une sorte de compte à rebours au niveau des lieux de la musique punk à Lyon. On a donc deux représentants d'une programmation qui est considérée comme une programmation punk commerciale, orthodoxe, en tout cas qui sont des lieux identifiés. Le Farmer, le Troxon, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, sur les pentes de la Croix-Rousse. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter comment ces lieux ont construit leur pertinence, ont construit leur public aussi, et ont construit leur programmation ? C'est pas un piège. Tu n'es pas obligé de répondre. Bon, Karl.
Comment ça a commencé ? Ben, c'est simple, en fait. Moi, j'ai ouvert en octobre 2005, juste après la vague où il y a eu beaucoup de fermetures sur les bars et tout ça. Et ça manquait un peu. Moi, j'étais un fervent client du Bistroy, du Pilsner, à bouffer du concert. Et moi, j'étais en manque de ça. Il n'y avait plus ce genre de choses. Et je me suis dit, on va tenter l'aventure, on verra bien. Vu que c'était après cette vague un peu de quiet, je me suis dit, on verra si on tient un an, on tient deux ans, on tient trois ans. Et puis au final, on va attaquer la 13e année et tout se passe bien. Voilà. Après, l'engagement punk, la programmation punk, elle est venue naturellement parce que c'est ce que j'écoutais, tout simplement. Du coup, j'ai fait des tentatives au départ, une fois par semaine, en me disant, on verra bien, ça passe ou ça casse. Et puis après, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Et puis voilà, l'aventure, elle commence comme ça. Elle commence assez simplement, en fait. C'est la passion et on verra bien, quoi.
Et au Farmer, donc à quelques centaines de mètres, Nico, est-ce que c'est la passion ? Est-ce que c'est des logiques commerciales ?
Logique commerciale, pas du tout, parce qu'on est bénévole. Mais en fait, le Farmer, ça fait du coup un peu plus d'un an qu'on a ouvert. Et en fait, c'est arrivé un peu par hasard, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas mon lieu. En fait, il y a un propriétaire qui s'appelle Pierre, qui est donc barman et gérant du lieu. Et en fait, ouais, c'est arrivé vraiment. Enfin, le Farmer, c'est arrivé un peu par hasard. On s'est pas dit, on monte ce lieu-là tous les trois. Enfin, on reprend ce lieu-là, en fait. Après, moi, je suis un ancien de Grande Zéro. Enfin, j'ai fait beaucoup de bénévoles en Grande Zéro il y a quasiment 10 ans derrière. Et du coup, ouais, dès que j'ai vu l'occasion de faire ce que j'aime, j'ai sauté dessus. Et après, il y a un délire un peu... Enfin, je sais pas si c'est pareil pour les autres. Moi, je suis quand même assez jeune, je pense, là-dedans. Mais il y a clairement un délire un peu maso. Enfin, moi, je le ressens de programmer comme un bourrin et vraiment de... Bah, surtout d'aider, en fait, les groupes, quoi. Je pense qu'il y a surtout... Moi, je le ressens, c'est surtout un besoin d'aider les groupes plutôt que le besoin de forcément être programmateur, avec des gros guillemets, quoi. Après, au niveau de la cohérence de la prog, ouais, c'est... C'est un mélange de goût perso et de trouver une cohérence avec les acteurs locaux aussi, parce que le Farmer, ce serait pas ce que c'est aujourd'hui sans. Enfin, moi, j'ai fait très peu, je veux dire, là-dedans. Enfin, je m'estime pas avoir fait quelque chose de gros. En fait, c'est aussi grâce aux assos, enfin, tout ce microcosme du coup qui organise. Et du coup, bah ouais, c'est trouver une cohérence entre plein de gens sur Lyon et extérieur, et aussi surtout favoriser plein de groupes étrangers qui sont tout petits et que personne ne connaît. Ouais, essayer de favoriser ce côté un peu découverte, quoi.
Une question très concrète. Combien vous faites de concerts l'un et l'autre, annuellement à peu près, ou mensuellement, si c'est plus facile?
En moyenne, j'en fais 4 par semaine. En gros, je fais les lundis et après du jeudi au samedi, quoi. Mais tout au début, ça n'était pas ça du tout, hein. C'était un ou deux concerts.
Aujourd'hui,
ouais, c'est ça. On est sur une moyenne de 4 concerts.
Au Farmer?
Bah, une moyenne sur l'année, je ne peux pas trop te dire parce que mensuel, ça fait un an. Bah là, en mai, on en a 23 en tout.
23 en mai.
Ouais.
Donc c'est intéressant parce que vous voyez, quand ça marche pas, et finalement, t'arrêtes pas de faire des concerts. Il y a toujours du monde.
Ah, il y a toujours du monde.
Oui, pardon.
Il y a beaucoup de concerts et qu'on est un peu éclectique. Des fois, ça devient dur. Si t'aimes autant le free jazz que le punk, que le théâtre, et ben 3 ou 5 euros, 23 concerts au mois de mai, quoi. Waouh.
Ouais, après, c'est dur à suivre. Hein. Après, du coup, on essaye de. Enfin, moi, j'essaie de pas programmer tout le temps la même ligne. J'essaie de. Tu vois qu'il y a un roulement, même si c'est toujours un peu la même esthétique musicale, que dans les semaines, t'es autant du hardcore, du doom, que du garage, que, tu vois, du coup, de varier. Et aussi, parce que du coup, c'est peut-être pas exactement les mêmes publics, donc il y a peut-être un roulement aussi par rapport à ça, quoi.
Je vais demander à Greg, avant qu'il se mette sur son smartphone, Je t'ai chopé en flag, je suis désolé. Non, c'était pour la question par rapport à Ground Zero, justement. Est-ce que tu peux dire un petit peu qui est... Alors là, on a deux. En fait, pour les gens qui sont de Lyon, vous connaissez le Troxon, le Farmer. Pour les gens qui ne sont pas de Lyon, donc ce sont deux bars, vous avez compris, qui organisent des concerts sur les pentes de la Croix-Rousse. Ground Zero, c'est autre chose. Est-ce que tu peux présenter l'histoire et le lieu, en fait?
Bon, Ground Zero est un lieu qui a 14 ans d'existence, plus ou moins en lutte, avec des gens qui sont présents des fois au premier rang, en même temps. Aujourd'hui, mais des luttes qui sont toujours bien soldées finalement pour essayer de préserver donc à l'origine dans un projet de squat un peu de culture. C'est juste après que c'est peu de temps après que le Pesner ait dû fermer ses portes et que ça a été le désert sur les pentes de la Croix-Rousse aussi que s'est ouvert ce lieu qui rassemblait plein de volontés différentes et surtout l'envie de monter quelque chose vite, maintenant, pour permettre de faire venir des groupes et de préserver et de permettre à Lyon de garder l'envie d'y rester, en fait, d'avoir un lieu dans lequel on avait envie d'être. Et du coup, moi, j'étais minot à cette époque-là. Hein, je faisais mes études, que j'ai pas terminées, d'ailleurs, grâce à Ground Zero, en partie. Du coup, pendant ces années-là, Ground Zero, après cette année de squat, s'est retrouvé deux fois logé.
Tu peux situer où ça se trouvait?
Rue Clément Marot, le premier squat, donc vers l'ENS. Un peu plus haut, enfin, au niveau de Jean Jaurès. Dans un ancien atelier de pub, studio de pub qui était assez chouette, avec un cyclo dans la salle de concert. C'était juste fou. Enfin voilà, quand on est gosse, qu'on arrive là, on se dit, ça y est, j'ai trouvé. C'est les copains, c'est évident. Et en fait, cette franche camaraderie, elle a quand même vachement pris et duré. Et cet esprit de collectivisation, de moyens de production de musique, elle s'est transformée assez vite en collectivisation de moyens de production tout court. C'est-à-dire que quand on s'est retrouvé donc dans un lieu un peu pérenne, à Brossette, qui était donc assez proche de Clément Marot, un grand bâtiment vide et à occuper. Assez rapidement, on s'est retrouvé avec des gens qui faisaient des arts graphiques, forcément, plein de studios de répète pour des groupes lyonnais, mais aussi des espaces qui permettaient à des gens de faire du montage vidéo, plein de trucs, plein d'activités comme ça. Un lab où je faisais des drones et des bricolages et où on créait des instruments. Et à partir de là, on s'est retrouvé en collectif, mais précarisé quand même, parce qu'on avait ce bail précaire qui était renouvelé tous les ans dans ce lieu de Brossette qui nous empêchait d'avoir aucun ancrage territorial et de se dire, tiens, on est là pour y durer, donc on va peut-être envisager l'avenir, quoi. Et du coup, avec une partie de... Et toujours avec une grosse pression sur la DIF, puisque... On a failli faire la prog du Rail Théâtre, on l'a fait pendant un moment, et puis on s'est rendu compte que ça se passait pas très bien, pour le dire comme ça, avec le Rail Théâtre. Et pas, du coup, la ville avait trouvé les moyens et tout de nous donner. Et en fait, ça a foiré. Donc bon, on a une fenêtre de diff qui était assez réduite. Et finalement, avant cette migration-là, ce qui s'est passé, c'est que les nuits sonores, on devait quitter le bâtiment de Brossette. Les Nuits Sonores avaient investi un hangar qui était juste attenant au nôtre et ils avaient installé de matériel pour une nuit de festival qu'ils avaient laissé sur place juste après. Et là, on s'est dit, et ça a été le début de notre... moi, je revenais du Nicaragua à cette époque-là, donc les questions de frugalité, trucs comme ça me parlait, récup et compagnie. Et on s'est dit, vas-y, on fait une salle de... Vu qu'on est amené à crever dans ces murs-là... si on se bouge pas, on se fait une salle de concert à l'arrache, juste en récup de ce qui avait été laissé par les Nuits Sonores. Et bah, c'est ce qui nous a permis de faire des concerts pendant 3-4 mois et de négocier un peu plus simplement, disons, cet espace de Bolène aujourd'hui, à Vaux-en-Velin, donc on construit 2000 m² de bâtiments sur un espace assez chouette, mais en friche.
Alors Greg, je te propose qu'on revienne après sur la construction à Vaux-en-Velin qui est en cours. Hein, qui, bon, on a vu des affiches, ça y est, c'est fini, ça va être fini avec Vassili Alexeïev. Hein. Vassili Alexeïev, l'homme le plus fort du monde, qui a été celui à cause duquel on a arrêté le troisième mouvement de en haltérophilie olympique. Hein. Donc après Alexeïev, on est passé de trois mouvements à deux mouvements, l'arraché, l'épaule jetée, comme vous le savez tous. On a supprimé le développé parce qu'il était trop fort, que c'était donc trop injuste. Et donc Alexeïev, avec ses 160 kilos, est donc l'affiche actuelle du Grand Zéro. Ouais. Donc Grand Zéro, il y a de la force, en tout cas, peut-être pas très tranquille, mais en tout cas qui est là, et on en reparlera tout à l'heure. Alors je voulais revenir, on était sur les squats, alors on va enchaîner peut-être avec d'abord la lutine et Arthur. Peut-être Colin, oui.
Au départ, Grand Zéro, c'était squatté. Le premier, c'était une ouverture de squat.
Ouais, le premier, l'ouverture.
Et le bail précaire, vous l'avez eu rapidement après l'ouverture?
Il y a eu une époque que j'ai un peu omis où on était dans des bureaux qui étaient juste attenants à France 3. C'était assez marrant, la promiscuité. Il y a des gens de France 3, non? Ça aurait été drôle. Mais on avait une table de ping-pong en commun. Enfin, c'était assez drôle. Mais au niveau programmation, c'était terrible parce que c'était le début du rail et on avait la gourguillonnaise, Animal Collective, c'est tout. Et le bail précaire, c'était toute cette période-là. En fait, le seul bail le seul moment où on a commencé à avoir un engagement sur la durée, on a pu voir un truc pérennisé, c'est Bolène, où là, on a signé pour 7 ans et on espère que ce sera reconduit. Parce que, a priori, les voisins étant reconduits, vu l'investissement en temps et en énergie de bénévoles, de milliers de bénévoles, si on n'est pas reconduit, on va être très en colère.
Alors, autre lieu, la lutine. Donc, Arthur, la lutine dont vous avez pu voir tout à l'heure, il y a des fanzines, etc., qui s'étaient exposées à l'entrée, là. Donc, comment ça s'est construit, cette lutine?
Alors, déjà, moi, je ne suis pas tout seul. Hein. Ouais, il y a Pompon qui est venu avec moi, mais qui est trop timide pour parler. C'est moi qui prends la sale tâche. Alors, la lutine, ça commence en 98. Donc moi, j'avais 8 ans, j'y étais pas. C'est un bâtiment qui s'appelait la Douane D, qui a été complètement squatté par plusieurs collectifs de squatteurs différents. Colin, je ne sais pas si...
Ouais, ça fonctionnait par appart, par appart différent, mais avec des apparts collectifs et le rez-de-chaussée collectif. Ouais. Mais le choix d'habiter donc quand même en appart de 3-4 personnes, quitte à faire des fois des bouffes ou des trucs ensemble. Voilà,
c'est ça. Donc ça a tenu pendant un an. En 99, il y a eu une procédure d'expulsion. Et à l'issue de ça, en fait, les habitants ont décidé d'occuper les locaux de Grand Lyon Habitat, enfin du Grand Lyon, parce que donc, c'était les propriétaires à l'époque. Et à l'issue de ça, ça a été légalisé en partie. Et s'en est suivi donc la lutine, l'atelier Black Screen, donc qui sont... trois locaux collectifs, Black Screen et l'atelier, c'est jumelé. Black Screen et la lutine, c'est jumelé. L'atelier, c'est juste à côté. Et donc, c'est des locaux qui sont collectifs. Alors, moi, je représente la lutine. La lutine, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait toute la semaine, en fait, il y a des collectifs un peu différents, surtout des orgas politiques qui s'organisent, c'est surtout un lieu de réunion. Et moi, je représente surtout le samedi. Le samedi, nous, on se réunit autour de café et de bière à partir d'une certaine heure. Et voilà, donc on met à disposition des disques qu'on vend. Et tout est non-profit et DIY. Il y a aussi des fanzines. Et on essaie de faire tourner la scène locale et les environs. Et donc ça fonctionne avec plusieurs distros. On marche en dépôt, donc c'est-à-dire qui veut ramène des disques. Nous, on n'achète rien, on note les noms et puis après, on rend l'argent une fois qu'on a vendu. Si on ne vend pas, au bout d'un moment, voilà, en gros, ça fonctionne comme ça.
Ok, on verra après sur le détail, mais là, je voudrais... Alors, on a parlé de Grand Zéro, on a parlé du Paysner plusieurs fois. Est-ce que Marie-Claire, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé, alors que tu avais déjà fait quelque chose sur la Croix-Rousse à l'X, à créer le Paysner, dont tout le monde parle depuis ce matin. Et même ce matin, j'ai reçu un message de Ron Athey, un performeur américain, qui m'a dit « Embrasse Marie-Claire ». Donc, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce lieu? Et surtout, comment ça s'est créé, en fait? Quelle a été la démarche?
C'était la fin des squats, en fait, parce que c'est très difficile de squatter à Lyon. Moi, j'ai squatté toute ma vie avant ça. On avait monté des lieux comme l'Exit, qui était du pur squat où c'était carrément dangereux à cause des normes de sécurité. On a des mecs qui sont foutus en l'air. Donc on a, comme on était des passionnés de musique et qu'en réalité pour pouvoir fumer et vivre comme des pins, qu'il nous fallait vivre uniquement de hashish et de musique, on allait à Amsterdam acheter des disques de musique indus déjà, et on était une grosse bande de potes de passionnés. Et on s'est dit, bon, ce coup-ci, on va la jouer légale, parce que sinon, on fera jamais passer des groupes qui, de toute façon, passeront jamais en France, parce que la France, c'est vraiment de la merde. C'est un pays de merde. La plupart des groupes évitent la France, parce qu'ils trouvent les Français absolument pas sympas. Ils ont raison. Il s'est jamais rien passé ici si des gens comme moi s'étaient pas sacrifiés toute leur vie, quoi. Eh ben, je savais que vous allez dire ça, mais je vous emmerde. Je vous emmerde parce que c'est quand même la vérité. Je veux dire qu'il y a énormément de gens comme moi aujourd'hui qui ont plus de 50 balais et qui ont toute leur vie fait des choses sans salaire, sans rien, et qu'aujourd'hui c'est des minables pour tout le monde, quoi. Et c'est ça un punk. Un punk, c'est un minable. Et fuck off. Si, parce que je veux dire, franchement, tout le monde me dit pourquoi ça continue pas le Pesner, et même maintenant on me dit Marie-Claire du Pesner, comme si j'avais hérité d'un titre honorifique à la bourgeoise du Pesner, quoi. Non, c'est pas ça l'histoire. D'abord, c'est pas Marie-Claire du Pesner, c'est toute une équipe de gens passionnés, et on l'était tous, des passionnés. On pensait pas au fric. On pensait pas au fric, et aujourd'hui, on voit des gens, c'est le cas des Nuits Sonores, hein, où de toute façon, on fait d'abord du business avant de programmer de la musique, parce que de toute façon, la musique, on s'en fiche. C'est le cas aussi des boîtes à bière, genre Ninkasi et tout ça, quoi. Voilà, il y a le business d'un côté, et puis nous, on reste en rade, exactement comme à l'époque. Pour moi, il n'y a rien à changer depuis les années 80. Dans les années 80, je mangeais une tranche de jambon, aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que moi, j'ai pas changé. Je suis intègre. Et quand je fais une performance, je peux te dire que personne n'a envie de me programmer, quoi. Bien que je suis Marie-Claire du Pesner. Voilà la vérité, quoi. Et que partout où j'ai fait des performances, j'ai fait des perfos concerts pour les sans-papiers, pour les immigrés, pour tout ce que vous voulez, mais moi, je n'ai jamais rien eu. Et la reconnaissance dont vous parlez, parce qu'on pourrait croire qu'il y a une forme de reconnaissance pour les gens qui montent des lieux alternatifs, mais il n'y en a aucune, les gars. À moins d'avoir une boutique et du business, il n'y en a pas de reconnaissance.
Alors Colin,
mais même pour les publics, aujourd'hui, il n'y a plus un punk. De toute façon, on voit bien, on est dans le patrimoine. Bien sûr qu'on est dans le patrimoine, quoi.
Alors Colin, est-ce que tu veux réagir? Parce que la réaction de Marie-Claire sur la création du Pesner, c'est la fin des squats. Est-ce que toi, tu peux nous dire...
Mais il y en a plein aujourd'hui, des squats, je le sais bien. Mais heureusement, mais ça a toujours été la vie de squat. C'est pas programmer des groupes internationaux comme on en a programmé. Nous, c'était une grosse machine avec vraiment du son. Et c'est pour ça que des grands groupes internationaux, comme c'est le cas des Swans, qui ne jouent pas s'il n'y a pas 130 dB, sous ces exigences de la musique industrielle et des musiques électroniques, justement, on avait une grosse machine pour que les mecs qui viennent chez nous, ils viennent pas pour juste pogoter, mais ils viennent vraiment pour une culture musicale aussi, pour des expositions, pour plein d'autres choses. Et un esprit aussi. On venait au Pesner parce que c'était une forme d'esprit et que c'était pas cher et que c'était des choses de qualité pour des gens qui avaient pas une thune. Et heureusement qu'il y a les squats. Moi, je connais très bien les squats. J'ai vécu quasiment toute ma vie et encore.
Je me souviens voilà. De toi, Jocotte. Tu sais.
Alors, Marie-Claire, on reviendra sur les programmations.
Tu m'étonnes, Turbo Negro ou Atari Teenage Riot au Pesner, c'était avant qu'ils soient super connus. On était 100, 150. Bon, moi, j'ai préparé un texte, en fait, où je reviens un peu comment je suis arrivé dans les squats, début 90. Du coup, de toute façon, tous ces témoignages, c'est toujours subjectif. Donc. J'ai pas envie d'usurper la parole de gens. Après, s'il y a des gens qui ont envie d'apporter une précision, qui sont pas d'accord, ils me coupent la parole, il n'y a pas de problème. Et je vais dire beaucoup de « je », des fois je vais dire des « on ». Parce que je vais commencer par mon enfance stéphanoise, tu vois. Mais après, j'ai rencontré des gens qui avaient eu des enfances à Metz ou je sais pas, dans n'importe quel bled. Donc, en gros, ça commence au début des années 80. Il y a la zone, il y a toujours dans chaque ville de France des endroits, tu arrives, tu rencontres des gens sur la place qui font la manche, tu discutes avec eux. Nous à Saint-Étienne, c'était Saint-Étienne post-industriel, quoi, c'était le cauchemar des années 80, c'était vide, la ville était vide, c'était pas la cité du design, c'était la cité de la mort. Et l'avantage de ce milieu, c'est qu'il brassait des enfants de la middle class issus de Prol ou des enfants de la cité, des prolos. Et quelques bourges, mais en tout cas, il y a eu plein de gens dont ça a bouleversé la vie. Des gamins, des gamines de Tessie qui ont découvert la musique, le théâtre, des trucs, il y avait un brassage, quoi. Et puis un jour, bon, on voyageait, ça allait à Montpellier, ça allait où tu veux. Et puis il y a des gens qui ont poussé un peu plus loin, qui sont allés à Amsterdam, qui sont allés à Berlin, qui sont allés à Barcelone. Et là, ils sont revenus, ils nous ont dit, mais le punk, en fait, c'est pas juste de boire des bières, de foutre le chaos, de renverser des poubelles. Le punk, c'est les cagoules, c'est les manifs, c'est les cantines véganes, c'est les ouvertures de squat. Et là, on est super vite passé au hardcore, qui nous proposait un mode de vie différent. Donc, hardcore américain avec Black Flag, mais surtout le hardcore européen. Les gens, donc j'ai noté Infezione de Virus à Milan, quoi, qui défendaient leur squat à coups de cocktail Molotov, quoi. Et là, ça nous a créé un imaginaire. Et on est plein à avoir bougé. On allait faire nos classes à l'étranger. Et tous, on s'est retrouvés à Amsterdam, Berlin, machin, tout, en se disant pourquoi ça n'existe pas en France, ce truc, pourquoi ? Et un jour, moi, je passe par hasard à Volnitsa, donc bar associatif, les autonomes lyonnais, on les appelait, pour ne pas les confondre avec les parisiens, parce que c'était encore autre chose. Et là, ils avaient organisé une journée sur les squats. On rencontre les gens de Parcage Mental de Rennes, qui avaient ouvert un squat qui avait été expulsé par la FA. Et là, on était plein, de plein de villes de France. Et donc, les gens ont ouvert la place Chardonnay, le 44, Burdeau. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, j'ai fait mes 3 jours, il y a eu les luttes squat du Bon Pasteur, qui était un peu plus légaliste, argumentation, le droit au logement, tout. Et dès novembre suivant, on a ouvert la rue Ozanam. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un mélange de plein de bandes différentes. C'est que nous, on avait un côté jeune ou moins jeune, mais quand même issu de la zone, quoi. Qu'on ait 18 ans, il y avait des gens de 30 balais qui avaient connu la misère, la prison, et qui avaient découvert ce qu'étaient les squats en Hollande par rapport aux squats de Zonard à Montpellier. Et il y a eu beaucoup d'échanges qui nous ont super enrichis. Il y a eu des conflits, évidemment, parce qu'il y a ce qu'on appelle donc les autonomes lyonnais. On avait aussi des gens de Prima Linea, des réfugiés italiens. On avait nous, qui étions plutôt, dans ce cas, des dégaines de clodo sous acide qui écoutent... Bon, il y a eu de l'échange, il y a eu du conflit. Je peux faire de la critique, je peux faire de l'autocritique. On a amené des pratiques qui étaient notamment le prix libre, qui n'était pas facile à l'époque. Il fallait vraiment baratiner grave. Le végétarisme, qui était un sujet de conflit. Là, je suis content qu'on ait dépassé ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'embrouilles là-dessus. Les dégaines, le langage, tous ces petits trucs débiles qui... Mais quand même, globalement, des échanges. Hop. Donc, hiver 90-91, on ouvre l'immeuble Rue Ozanam, resto végétarien. Genre, l'idée, c'est de montrer que la bouffe végétarienne, c'est hyper classe. Du coup, une équipe de voleurs, alors là, je te raconte même pas. On se fait virer. Il y a le Raptou qui est ouvert en 91, qui part sur une optique un peu quartieriste avec les enfants. On va faire un bar sans alcool. Bon, ça marche pas du tout. Genre, les gens, ils planquent une bière, ils font un bar sans alcool. Tu sais, genre. Et très vite, c'est devenu le Freaks Bar, qui s'est retrouvé à organiser des concerts, beaucoup en liaison avec à Grenoble, ça avait commencé à squatter. Un des premiers concerts, on avait branché, donc pour nous, un album culte, c'était Chromosome 4 et I'm Atlas. Et donc, on a fait jouer Tears of a Doll et les ex-Chromosome 4, dont le nom m'échappe. Et avec les gens de Grenoble, on a fait Disorder et la première tournée de Fleas and Lice. Econochrist, Turun Tauti, les Finlandais. Et c'était entre Concert Sauvage, Volnitsa, qui nous servait de base légale, mais les squats. Le Raptou a été expulsé. Alors ça a donné lieu, je ne vais pas vous raconter, mais bon, quand même, baston, lacrymo, des flics blessés, des copains blessés. Ça faisait plaisir quand même. C'était la première fois qu'enfin on arrivait à. Putain, à se cartonner contre les flics pour de vrai, quoi. Genre, le truc que je rêvais depuis que j'avais 14 ans, quoi. Quoi. Ensuite, expulsion du Raptou, on s'est un peu séparés. Il y a eu une connexion avec Silly Hornets. Ils ont ouvert un squat, certains squatteurs et certaines personnes de Silly Hornets. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Silly Hornets ici. Ouais. Donc, tu te souviens, ce squat vers la rue du Calais vers Bon Pasteur, là. Mais vous n'avez pas eu le temps de faire un seul concert, vous avez été expulsé avant.
On n'a pas ouvert de squat, on a fait des choses ensemble, on a fait des choses au Raptou, on a fait pas mal de concerts au Raptou avec vous. Quand vous vous êtes fait expulser, on était là et on était sur les toits pour sortir de la rue des Feuillants. aussi en soutien parce qu'on a toujours été solidaires. Bon, par contre, c'est vrai que quand tu dis que ça se fritait aussi entre nous, parce que vous, c'était prix libre, mais nous, c'était pas prix libre, c'était 50 francs coûte que coûte, parce que nous, on mettait du son. On voulait que les groupes ils jouent avec du son, on voulait que, qu'ils jouent dans des bonnes conditions et que les gens écoutent un concert dans de bonnes conditions. C'était le truc sur lequel on n'était pas d'accord.
Mais, entre autres.
Mais on n'a pas ouvert de squat, mais on vous a soutenu et on est venu.
Dans mon souvenir, il y a eu un squat ouvert, mais qui n'a pas eu le temps de faire un concert.
Oui, voilà, un truc comme ça, mais c'est anecdotique. Bon,
en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des conflits, effectivement, mais il y avait aussi, de même qu'il y a eu des conflits avec un type de prima linea, qui, où, tu vois, genre, et vous Allez, j'enchaîne. Donc, Magnoval s'est expulsé, on s'est pris de la grosse répression plein la gueule. On a eu le temps de rencontrer des Finlandais, on a eu le temps de rencontrer The Six, on a eu le temps de faire jouer Stretroyer plusieurs fois, on a eu le temps de faire jouer Condense à l'ouverture, où la sonovoix avait pété. Du coup, on a demandé au chanteur de finir le concert au mégaphone. Apparemment, ça lui a plu, vu qu'après, je l'ai vu en concert, il jouait avec un mégaphone aussi. Allez, anecdote, hein. Ensuite, après Magnoval, on a surtout squatté des apparts, fait des concerts sauvages. Il y avait un petit théâtre, Uleno. On a fait jouer Spacehead. Il y avait Volnitsa qui est devenu un squat. Donc, l'assaut s'est fait virer, mais c'était squatté plusieurs années. Et il y a eu les éternels Coche Bomba, Traumatisme, donc les groupes. Voilà, c'est que Lyon, en fait, c'était la première étape. Il y avait des squats à Paris. Quand on a commencé à ouvrir à Lyon, on a entendu ce truc. Ouais, mais ici, c'est pas comme à Paris, ça va pas être toléré, les squats, vous comprenez, C'est la même phrase que j'ai entendue après à Lille, à Toulouse, à Clermont, à Rennes, à Nantes, machin. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que c'était le premier pas vers renouvellement d'équipe, mais qui dure encore. En fait, la France est un des pays où il y a le plus de squats illégaux qui s'ouvrent et un renouveau des équipes de squatteurs. Et donc, moi aussi, quand je pensais... Donc voilà, des conflits, des prises de tête à la con. Des fois, on pouvait être arrogant ou chacun bloqué sur des positions de principe. Ou... Bon... Allez, donc critique et autocritique. Et voilà, et après c'est parti, c'était l'intersquat, et ça ouvrait de partout, et dans toute la France, et voilà.
Ouais. Marquis, alors, je vais... On continue après sur les squats et sur les, leurs effets. Et Marquis, je voulais savoir, justement, alors, comme tu viens d'ici, hein, tu viens du quartier. Tu viens du quartier, t'es né à côté. Faut t'as été...
Non, je suis pas né à côté, mais par contre, j'ai habité 20 ans au boulevard des États. Ah ouais. C'est mon quartier.
Ce parcours dans les salles de concert, dans les salles de musique, dans la Croix-Rousse, parce qu'il y a quand même, on parle pour les gens qui connaissent pas la rue Léno, la rue Burdeau, Bon Pasteur, tout ça, c'est les pentes de la Croix-Rousse. Comment toi, tu vois
déjà,
l'évolution
Il faut voir une chose, c'est que les pentes de la Croix-Rousse, on est déjà sur 80 et passé. Moi, ce que je me souviens, c'est 77-78, où on parlait pas de squat. Il y avait eu quelques trucs squattés à avenue Berthelot, où il y avait eu des concerts qui avaient été organisés. Mais le squat n'était pas vraiment ce qui a dynamisé, je pense, la chose. C'est plus le Rock'n'Roll Mobs, le Westside Club, qui ont dynamisé le mouvement punk à cette époque-là, plutôt que les squats qui sont venus plus tard. Ça, c'est une petite anecdote. Voilà quoi. Oui, non, attends, qu'on soit bien d'accord. Je suis d'accord, mais c'est venu quand même plus tard.
Alors avant les squats, justement, avant les squats, comment ça circule ?
Avant les squats, à part les scènes officielles, il y avait très peu de lieux. Il y avait les Capucins qui faisaient quelques concerts de temps en temps. Il y avait quelques bars où il y avait des lieux, où il y avait des concerts. Mais sinon, sorti de ça, de 77 à 82, 83, il n'y a pas eu... il y avait vraiment qu'une, je dirais, une scène officielle. C'était aussi peut-être le problème, mais il y a quand même des gens qui ont eu les couilles de quitter des emplois. En tant que, je pense que quelqu'un que le connaît tous, qui a un emploi, il avait un emploi de banquier pour monter une société de concert. À cette époque-là, c'est quand même, voilà, il a quitté la BNP pour monter une société qui a organisé les Lords of the New Church, qui a organisé des concerts, voilà quoi. Et ces gens-là ont participé, je pense, malgré qu'ils n'aient pas travaillé dans les squats ou fait ce genre de choses, ont participé à la culture punk à Lyon, en tous les cas.
Et tu parlais l'autre jour de justement de si on voulait être programmé en Europe, fallait passer par Lyon à un moment. Tu peux redire ça, même si c'est un peu, c'est un petit peu.
Non, c'est pas la phrase. C'est pas la phrase. La phrase, elle est pas de moi. Tu commences une tournée européenne. Tu commences ta tournée européenne par Lyon. Si tu passes à Lyon, tu passes dans toute la France, dans toute l'Europe. C'est Jean-Jacques Bornel, c'est pas moi. Cité dans le NMO.
Ok. Je peux revenir vers bon. Carl et Nico qui allaient partir, enfin je pense, hein, vous allez. Je voudrais vous dire comment. Alors là, on voit que la scène punk à Lyon, elle a différents étages, différents niveaux, différentes logiques aussi. Et alors peut-être d'abord, Carl, je voudrais peut-être poser la question à Nico. Tu disais tout à l'heure, quand je programme pour aider des groupes. Donc c'est comment tu fais les choix justement par rapport à des groupes qui sont peu connus, qui sont peut-être, alors est-ce que c'est des groupes qui tournent dans des squats et tu te dis je vais leur proposer de tourner aux Farmers, comment ça se passe en fait dans ces choix, au-delà du choix esthétique, du choix du groupe en lui-même? Tu dois avoir le micro de Colin qui est ici, voilà.
Par rapport au choix, après c'est aussi des choses que moi j'écoute depuis très longtemps, parce que même si je suis peut-être jeune par rapport à la globalité, j'écoute vraiment, enfin je baigne vraiment dans le milieu punk, hardcore, etc. depuis très 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 longtemps, enfin j'en écoute depuis genre que j'ai peut-être 10 ans à peu près, tu vois. Et du coup, bah ouais, j'ai peut-être acquis le fait de dénicher des petits trucs à droite à gauche, et en fait je pense que ça vient naturellement, c'est juste que ben, moi j'ai acquis quelques contacts à droite à gauche en France et dans d'autres pays, etc. Je m'intéresse au tout petit label, au micro label qui est perdu au fin fond de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Et du coup, bah, après, ça fait comme un... Moi, je vois comme ça, c'est un peu comme un arbre généalogique, quoi. Le micro-label va m'amener vers tel groupe, telle manageuse, telle tourneuse, etc. Et ouais, je pense que ça se construit, en fait, au fur et à mesure. Donc, en fait, le farmer... Moi, j'ai ramené, du coup, aussi les contacts que j'avais et ce que je voulais faire. Mais après, il y a d'abord une âme dans le lieu du farmer qui existe... Depuis, je pense, avant que je sois né. Donc, du coup, moi, je connais beaucoup moins, en fait, cet aspect-là du farmer, par contre. Ouais.
Est-ce qu'on a la même logique entre Oxon, par exemple, en termes de choix, de programmation? Parce que tu programmes aussi, hein.
Ah oui, mais complètement. Ouais. On fait que de la programmation. C'est vraiment. Mais tu disais, c'est faire jouer. C'est de toute façon, on se retrouve avec la chance d'avoir une scène en hypercentre. C'est faire jouer ces groupes. C'est faire jouer ces groupes qui jouent en squat et qui peuvent jouer en café-concert. Parce que là, pour le coup, il y a une petite différence. Mais oui, c'est d'amener cet accès-là au groupe totalement. Enfin, cet esprit punk, il est là aussi. C'est que ça joue. Il faut que ça joue de toute façon. Peu importe où, il faut que ça joue. Donc, le truc son, je le vois comme ça. Il faut que les gens.
Oui. Est-ce que alors.
Non.
Je vais relancer peut-être sur Greg de Grand Zero par rapport au fait que justement, il y a des connexions. Parce que tu disais tout à l'heure que tu étais passé par Grand Zero, Nico. Ouais. Donc, comment ça se passe en termes de circulation, là aussi, entre des lieux plus underground, ou en tout cas moins visibles ou moins exposés que le Troxon ou le Farmer?
Bah, de par sa durée, sa perméabilité et son ouverture, je pense que à peu près tout. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus, tous les gens qui sont ici sont passés par Ground Zero en public, et pour beaucoup, ont donné les coups de main à un moment donné au bar.
C'est le même réseau, en fait.
C'est un même réseau, et comme Ground Zero fonctionne sur le bénévolat, plein de gens qui ont une activité professionnelle ailleurs. En ce moment, bon, c'est pas, ils sont pas là, mais et ils peuvent donner des coups de main sur les concerts GZ. On a servi de base de repli à des gens pour de découvrir, de démarrage de machin, pour se construire et pour avancer, on est dans une autre dimension encore par rapport à ça aujourd'hui, avec tout le chantier qui s'est ouvert, etc. Mais je pense qu'on fait effectivement partie du réseau. Après, sur la partie organisation de dates, pour l'instant, nous, c'est plutôt l'expérience de la frustration quand même, sur les grosses dates en tout cas, et le fait de devoir faire des concerts hors les murs autant que possible. On a hâte que ça s'ouvre, c'est tout.
C'est septembre, hein, la prévision?
Non, ce ne sera pas septembre, parce que le temps que les offres des municipalités de Vaux-en-Velin, par exemple, passent avec les pompiers, valident, nous retoquent, qu'il faille changer, je ne sais pas quoi. On espère que tout sera... Enfin oui, tout sera prêt en septembre, mais après, il y a la temporalité du... de l'administration française et des problèmes, questions de sécurité qui font que qu'on espère pouvoir ouvrir, enfin qu'on sera prêt à ouvrir en septembre, mais qu'on ne sait pas exactement quand on pourra ouvrir.
Okay. Colin ?
Ouais, moi je voulais préciser un truc au niveau pourquoi on programme, pourquoi on qui on programme. Et ce qui m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé à Lyon avec Wolnitsa ou dans d'autres endroits comme le Frankrijk, Amsterdam, là, c'est qu'en fait, maintenant, on aurait tendance à mettre genre mat rock ou blues, punk, post, trash, ceci. Bon, à l'époque, on carburait à punk, hardcore, ça pouvait être Victims Family, ça pouvait être Back to the Planet, la bande à Technoid Shaper. On s'en branlait. Par contre, à chaque réunion, il fallait que le groupe envoie ses paroles. Et ça, c'était capital. Et s'ils avaient le réseau Wolnitsa ou... Bon, dans d'autres villes, des équivalents. Comment ils avaient eu ce réseau ? Est-ce qu'ils l'avaient eu par hasard ? Ou est-ce qu'ils venaient d'un truc ? Et ça, du coup, on s'est retrouvé à faire jouer, donc, je sais pas, Back to the Planet, Foreheads in a Fish Tank, des trucs d'électro, aussi bien que Drop Dead, que Disorder. Mais on s'en foutait, donc les paroles étaient correctes et que la démarche était underground. Et après, la musique, eh ben, des fois... Eh ben, il y a des groupes que pas grand monde aime, des groupes qui marchent super bien, mais en fait, on sent taper de la musique. Tant que la démarche était là, la musique, ce que tu veux, quoi. C'est ça aussi le punk, c'est aussi des groupes qui n'étaient pas du tout punk, quoi. Genre Back to the Planet, c'était le début de la techno trans, là, je sais pas quoi, ou Radical Dance Fraction, c'était pas du hardcore, quoi, mais c'était politique.
Est-ce qu'on retrouve la même chose à la Lutine, indépendamment de la musique, mais dans l'association justement des collectifs et des...
Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que y a une volonté politique et il y a la volonté de faire un truc DIY et non profit. Ça c'est clair et net dans la Lutine. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à la Lutine, c'est soit pour faire survivre le lieu, soit le faire pour le faire. C'est-à-dire que nous, on engrange zéro thune à côté. Et que après, en fait, les promotions de concerts qu'on peut faire et tout, c'est pareil, en fait. C'est soit de l'affinitaire, soit du politique. En gros, voilà. Moi, je me sens plus proche de Colin par rapport à, en fait, tout ce qu'il raconte, plutôt que, et c'est pas à titre personnel, mais par rapport à ce que les autres gens racontent. Alors, Grande Zéro, c'est vrai qu'on a fait des trucs ensemble à un moment donné. Là, je parle à titre personnel, pas au nom de la Lutine. Mais c'est vrai que... Vous, il y a une expérience mercantile, en fait, dans...
Elle n'est pas mercantile, c'est qu'il y a une dimension obligatoire, le fait d'être un commerce. Donc forcément, on rentre dans des données qui sont différentes. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer, par exemple, le Troxon avec un squat. Ça, c'est
bien
évident.
Sûr. Non, mais c'est juste... moi, je marque...
Non, mais bien sûr, je comprends tout à fait. C'est le fait d'être un commerce qui fait que, de toute façon, il y a un moment, comme tu dis, on rentre dans un système mercantile, mais à nous d'être malins et qu'il soit pas... qui nous bouffe pas la tête, quoi. Enfin, on peut très bien rester dans cet esprit punk et puis, de toute façon, créer des emplois ou enfin, ce genre de choses. Là-dessus, je pense pas qu'on puisse se vendre ou se mentir.
En fait, je pense que c'est peut-être un peu le problème qu'il y a, c'est que je suis un peu d'accord du coup avec Karl à ce niveau-là. En fait, il y a une dimension commerciale juste parce qu'on a un lieu qui a un débit de boissons. En fait, on vend des consos. Mais clairement, en fait, moi je vois comme ça, c'est que comment on peut espérer faire des bénéfices et faire de l'argent en fait dans ce milieu-là, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je suis bénévole, et du coup, ça veut pas dire que nos lieux sont, qu'on a la casquette d'être mercantile, que du coup, on fait ça, tu vois, pour faire grossir de l'argent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en tout cas, moi, je découvre comme ça, donc désolé si.
Alors, Colin, et puis après, on va passer à des questions, parce qu'il y a des gens qui veulent réagir. Colin?
Donc, là, la question qui s'est posée, lieu mercantile et tout. Donc, c'est qu'à l'époque, OK, autocritique, on était super radicaux, 50 balles, c'est trop cher, fais-toi un prix de groupe, gna 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 gna. Nous, on faisait des trucs, évidemment, on volait la moitié du matos. Du coup, on pouvait se permettre de faire prix libre, rien à foutre, la bouffe à 1 euro, c'est tout taxé. Et à cette époque, on avait un radicalisme qui était sûrement un peu déplacé, OK. Mais je pense maintenant que c'est une question d'équilibre à trouver. Tu peux essayer de créer un emploi. Après tout, c'est quoi? C'est la thune de l'État. Mais après, il y a des trucs, par exemple, de ne pas vendre les verres trop chers, d'avoir une politique de... De s'occuper des relous, par exemple.
Autre option, par exemple, depuis 2012, l'entrée est gratuite. Tu vois, moi, j'ai décidé d'assumer complètement les cachets des groupes. Que ça marche ou qu'on se plante, c'était mon problème.
Sur la tune du bar.
Voilà, exactement. Comme à la grande époque, tu vois. Enfin, dans les caves cons, à l'époque, c'est le patron qui payait. Il n'y avait pas forcément des entrées payantes systématiques.
Il y a un équilibre à trouver.
Voilà,
en fait, c'est ça. Il y a un équilibre à trouver, quelle que soit la structure. Alors, il y a des dérives. Des fois, on va trouver sur des gros vendus qui profitent, machin, ou des fois, bon... Mais moi, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Maintenant, on a peut-être assez pris de plomb dans la tête, dans l'aile, dans quoi, je ne sais plus. on a pris du plomb quelque part. Et pour comprendre que ça peut être un bar, ça peut être un squat, mais l'important, c'est la démarche. Quoi.
Alors, Estelle, tu voulais poser une question ?
Merci. En même temps, tu viens de répondre à moitié à ce que je voulais te demander. Je suis très impressionnée par ce que vous dites sur le nombre de concerts que vous faites par semaine. 3-4 concerts par semaine, ça me semble, c'est vraiment énorme pour
un...
Et je voulais savoir quel était ton modèle économique, comment tu faisais avec les groupes, est-ce qu'ils étaient payés aux entrées, comment tu faisais?
Tu as
commencé à répondre, mais ça m'intéresse vachement de voir ça.
En fait, avant, oui, on faisait les entrées à entre 2 et 5 euros, et puis moi, alors il y a toujours cette démarche entre guillemets politique de se dire je paye pour aller voir un concert. Cette action-là, elle est elle est indéfendable. Moi, je trouvais personnellement que dans mon lieu, je voulais que cette musique-là, ce que j'aime, soit accessible à tout le monde. Et c'est ce qui a permis cette petite idée de faire la gratuité a fait que ça a augmenté la fréquentation et ce qui m'a permis de encore mieux payer les groupes, en fait. La combine, entre guillemets.
C'est sur le bar que tu...
Ouais, voilà, je paye sur le bar.
Et donc,
en fait.
Tu peux jamais annoncer un cachet au mec.
Ah, si, on a. Ah non, mais je fais pas de pourcentage sur le bar. Quand on vient et qu'on me dit c'est 300, c'est 500.
Donc, t'attends qu'on te. Donc, les
paye,
groupes, ils
te
disent.
Je paye, je prends le risque, 500, en fait. Et ben, je prends le risque.
Pour 500, d'accord.
Je prends le
et
risque.
Ils viennent d'où, tous tes groupes? Parce que c'est énorme comme.
Ils viennent de France, Europe, international, suivant. Mais on chope des gens qui sont en tournée, qui sont aussi, d'accord. On le sait tous, forcément, quand ils sont en tournée, un peu moins gourmands, que sur
Les plus gros cachets que tu donnes, du coup, ça monte à combien pour que tu puisses
Le plus gros, il est monté à 800, parce qu'on est quand même un petit lieu, quoi.
Oui, non, mais c'est juste pour comprendre comment tu t'en sors. C'est super louable.
Mais on prend des risques, en fait.
Il y a
des
types à Rouen qui font l'équivalent aux trois pièces, qui font autant de dates que toi par semaine.
C'est ça, ouais.
Mais il faut aux entrées, même si l'entrée est à 2 euros ou 3 euros, parce qu'il s'en sort pas avec.
Ah, mais des fois, les gens veulent plus payer, même 2 euros, 5 euros.
Mais lui,
on
fait
a tous cette expérience-là.
C'est super chouette ce que tu fais. Bravo.
Merci.
Greg, vous voulez réagir?
Non, mais je voulais dire très rapidement par rapport à ce qui a été dit sur les squats, les bars. C'est bien, mais il ne faut pas oublier que ces lieux ne sont pas interchangeables et que les bars ne peuvent pas remplacer les squats parce que ce n'est pas les mêmes programmations qui s'y trouvent.
C'est clair.
Ce n'est pas les mêmes échelles, ce n'est pas les mêmes
pratiques,
ce
n'est pas les mêmes
problématiques. Et on ne peut pas mettre tout le monde au pas et les faire rentrer dans des boîtes ou les faire tous les rendre tous programmateurs de SMAC ou de salles qui... Et donc, faut que ces dimensions coexistent et qu'on laisse la dimension squat coexister.
Une pluralité des lieux, des logiques.
Mais oui, mais c'est ce qui fait la force du réseau et qui dynamise en tout cas la scène lyonnaise. Pardon.
L'insécurité du squat, c'est son gros défaut. Et la sécurité du squat, génial, c'est que t'en as rien à foutre. Tu fermes à n'importe quelle heure, tu payes aucune taxe à l'État. Donc effectivement, tu peux être expulsé au bout de 6 mois, machin. Mais par contre, t'en as rien à foutre des normes, des trucs, tu peux y aller. Et donc vraiment, on est bien d'accord, hein, je voulais vraiment pas opposer je pense qu'avec un peu de souplesse, il y a moyen de faire jouer les mêmes groupes, une fois dans un squat, une fois dans une asso, une fois dans un bar. Mais donc toi, tu disais au départ entre 2 et 5, et après là, tu les payes sur le bar. Moi, je sais que souvent, quand je vais voir beaucoup de concerts, de films, eh ben, je préfère... filer. Alors, c'est pour ça que j'aime bien le prix libre conscient, quand les gens ont l'habitude du prix libre.
Oui, mais ça, bien sûr, parce que c'est un acte.
Parce qu'en fait, carrément. Moi, limite, dans un bar, je préfère avoir 2-3 bières dans mon sac. Je sors entre deux groupes, je bois une bière. Par contre, je donne l'argent à l'entrée selon ce que j'ai. Donc 3, 5, hop. Mais c'est pour les groupes. Et je préfère donner l'argent pour les groupes que l'argent pour la bière. Donc c'est pour ça que j'aime bien le prix
oui,
libre.
Je comprends.
Quand
oui,
il est bien.
Oui, mais bien ça, je l'entends tout à fait. Bah oui, c'est la bière. Hein. Non, il n'y a aucun doute là-dessus.
On était du fût de bière quand même, hein. Je voudrais d'abord vous dire bravo, Grund Zerund, Farmer, Troxon. Parce que, quelles que soient les circonstances, programmer du live, c'est réellement un combat. Et c'est même un combat de société, à mon avis. puisqu'on a un marché qui a décidé qu'on serait tous moins payés, qu'on passerait nos loisirs derrière des tablettes, et quand on fait le contraire, évidemment, c'est un combat politique. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que alors, la plupart n'étaient pas nés. Moi, je suis de 56, j'ai grandi dans le 8e. Je n'oublie pas le rôle, dans les années 80, des MJC et des théâtres. On ne les a pas cités, mais... Voilà.
Dans... programmé au CCO à Villeurbanne, parce que le Villeurbanne était une ville socialiste et qu'il nous laissait la porte ouverte, alors que Lyon, ça n'a jamais été possible. Et je vais te dire, moi, je trouve que cette époque, aujourd'hui, ressemble beaucoup aux années 80. Et pour moi, comme tu le dis, c'est un combat politique réel, même s'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Le combat, il est vraiment là, et encore plus aujourd'hui qu'hier, finalement. Nous, si on a créé le PESNER pour répondre mieux que j'ai répondu tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y avait rien, c'était le néant, quoi. Il n'y avait rien à Lyon. Pour une ville de cette importance, on trouvait ça mais dramatique. Et nous, on vivait de musique. Nous, la musique, on en mettait même la nuit quand on dormait. C'était en boucle. Avec des télévisions qui étaient à l'envers, avec des films de Herzog sur les nains. Et on commençait petit, la tête en bas, quoi. C'est ça notre culture. Au cas où les gens qui font des expositions, comme le monsieur que j'ai vu, il ne sait pas ce que c'est, qui me laisse faire une exposition, il a qu'à me filer un budget, je lui fais payer une exposition avec des punks. Avec des punks qui sont là sur place. Et puis, la façon dont on faisait les choses, c'est-à-dire qu'un téléviseur, on ne l'avait jamais mis à l'endroit. Jamais mis à l'endroit, quoi. Un téléviseur, pour nous, c'était une merde sur laquelle on balance des canettes. Et le présentateur, à la télévision, il a la tête à l'envers, quoi. Moi, je ne le vois plus, ça. Je suis désolé, je ne le vois plus. On voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde regarde les choses à l'endroit, quoi. Nous, on regardait les choses à l'envers. C'était une marche okay. à l'envers du miroir, comme disait Antonin Artaud, pour citer Artaud, voilà, quoi.
Okay.
Et une petite apocalypse, c'est clair. Voilà dont il s'agissait. En fait, vous n'avez pas parlé d'une chose qui, pour moi, est hyper importante, c'est l'apocalypse culture, parce que c'est de ça dont il s'agit, quoi. Ça voudrait dire que là, on parle des lieux depuis tout à l'heure, comme si c'était quelque chose de séparé de la société, alors que c'est pas vrai, c'est en plein dedans, quoi. Et comme tu le disais très justement, les prix libres et tout ça, c'est une volonté de gens comme nous de savoir qu'il y a plein de gens qui n'ont pas une thune, quoi, et qui doivent avoir un accès à la culture. Pourquoi ? Parce que ça rend moins con. Et là, je prends de l'actualité. On prend des gens comme Daesh. Ça pourrait être des punks à Daesh. Daesh, ils sont au Captagon, les mecs. Sauf qu'ils sont radicalisés. Nous aussi, on était radicalisés. Moi, j'avais un groupe qui s'appelait EXH, c'était Ex Nihilo Nihil, et je peux vous dire que c'était du radical, et c'était en 81. Donc, voilà, et des choses radicales. Maintenant, il n'y a plus que les musulmans djihadistes qui sont radicaux.
Moi aussi, j'ai un petit compte à régler.
C'est ça, la culture, quoi.
Alors, moi aussi, j'ai un petit compte à régler, je vais le faire maintenant. Donc, après vous avoir parlé des MJC des théâtres ou théâtre du 8e, par exemple, on pouvait voir Catherine Ribeiro et toute la tribu de Gong programmée sur 4 jours. Donc, il y avait des formes assez particulières qui allaient, y compris dans des lieux tout à fait légitimes. Ground Zero. Alors, je sais pas exactement avec qui tu as une difficulté au premier rang, mais alors, au cas tout à fait éventuel où ça tombe sur moi.
Non, c'est
plus. Je voulais juste préciser que dans l'équipe de Colomb dans laquelle j'étais, je l'ai quitté en 2011 et maintenant je suis en opposition, que je crois être celui qui a convaincu Colomb de prendre en compte Ground Zero, de le pérenniser, lui donner sa première subvention, ce que j'ai annoncé à Christina Martineau en son temps, je ne sais pas, ça devait être 2003, 2004, 2005, je ne sais plus, voilà.
Ouais, j'en profite. Juste sur le prix.
Plutôt un bonjour sympathique.
Juste sur le prix, le NTH8 est aussi un lieu où il y a prix au choix, c'est-à-dire qu'on peut venir... voir une représentation théâtrale et payer au choix que l'on veut. Je crois que c'est le seul théâtre qui a une programmation sur Lyon qui le fait. Oui.
Un truc qui est important aussi, dont on n'a pas parlé par rapport à APCP et tout, on n'a pas parlé des acides, quoi. Merde.
Depuis le début, ça a pris un tournant vachement patrimoine et universitaire, alors qu'en réalité, le punk, c'est sexe, drogue and rock'n'roll, hein, je crois que tout le monde le sait, et qu'en réalité, voilà, justement, c'est bien le souci, c'est que... Le rock, ouais, il y a pas de rock. Le sexe, on se demande. Et puis, pareil, les drogues aussi, on se demande. Hein. De toute façon, la France, elle a toujours pas légalisé, ça c'est clair. Et je veux dire, on est toujours dans le même maras depuis les années 80.
Oui. Tu veux intervenir ?
Je sais pas ce que je vais raconter, mais je vais raconter quelque chose. Déjà, je rends hommage à Marc de Yonette qui est parti aujourd'hui et qui était le premier guitariste de Parabellum avant Schultz, quoi. Mais enfin, c'est un peu personnel, quoi. Ben, dans les propos de Colin, il y avait le truc aussi que on voulait déjà vivre sans être une avant-garde, vous voulez vivre différemment des autres. Et à cette époque, c'était assez mal vu. On voulait quand même. C'était une espèce de communisme immédiat, si je puis dire, quoi. C'était. Et justement, cette histoire de prix libre, tout ça, moi, maintenant, ça m'arrive d'avoir ça m'arrivait à l'époque de voir des concerts un peu chers, mais parce que c'est vrai. Ben, bref, mais. Enfin, tout ça, c'est lié, quoi. Et puis, l'histoire des acides, moi, j'en ai pas pris beaucoup. Moi, c'était surtout l'alcool et ces choses-là, mais c'est vrai que. Voilà, il y a des dangers dans les choses et il y a des bons côtés, quoi. Enfin bon, bref, là je.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a des réactions encore? Scub, attends, Scub. Il y a plein de questions. Alors, attends, Scub, vas-y.
Déjà, par rapport au Pesner, j'ai entendu dire. Après, moi, j'avais 5 ans hein, au moment du Pesner, j'étais tout gamin. Et qu'il y a eu des embrouilles par rapport à la mairie. À un moment, ils vous ont proposé en fait de collaborer, de faire des projets pour les jeunes, c'est ça? Et ça, c'est mal passé.
Ouais, parce qu'au Pesner, on n'est pas des collabos, quoi.
Ouais, mais en gros, ils vous demandaient de faire des activités pour les jeunes du quartier, quoi, du rap, tout ça, des choses
ils
comme ça.
Ils auraient voulu justement qu'on fasse de la MJC, en réalité, pour désengorger c'est pour des politiques de la ville et des histoires de quartier. Et nous, en fait, c'est vrai qu'en fait, pour une fois, ils ont pas eu de chance avec nous, dans le sens où nous, on aimait vraiment la culture, quoi. Parce que, bon, le Pesner, il y avait aussi les arts confondus, dont je m'occupais principalement, qui étaient que des artistes, des plasticiens et autres. Et là aussi, très hors norme. En fait, le Pesner, c'était un lieu hors norme. Au niveau musical, mais c'était pas un lieu punk, parce que c'était très éclectique. Je veux dire que nous, on a fait passer Atari Teenage Riot, comme on a fait passer les Gnawa du Maroc, et les gens payaient leur place,
coup,
même si elles étaient pas chères.
La culture populaire, au sens, elle vous intéressait pas plus que ça.
Justement, c'était donner des choses de qualité à des gens qui en avaient envie, dont c'était le besoin, parce que les mecs, ils foutaient le camp à Berlin pour avoir ça, et ailleurs, parce qu'à Lyon, il n'y avait rien, et seulement, il y a beaucoup de personnes comme moi, en fait, on s'est sacrifié vraiment pour que ces choses existent, quoi.
Mais
parce que sinon, elles n'existeraient pas, quoi.
Le côté marxiste de la chose, ça ne vous importait pas trop, quoi.
Moi, disons, c'est toujours pareil. Sur une équipe, si tu veux, tu as quand même 8 membres dans une équipe et tu as des gens beaucoup plus politiques que d'autres. Et des fois, c'est le conflit. Et par exemple, comme on parle du punk tout à l'heure, pour vous citer juste un truc, c'est qu'on a évacué une seule fois le Pesner en disant, là, c'est pour le groupe NRA.
Avec le baston, avec les faf et tout.
Parce que il se trouve que en fait, ce genre de groupe, par exemple, c'est que ce soit les skins et les punks, c'est leur même groupe. Et ils se mettent sur la gueule et ils se sont battus au couteau. On a failli avoir des morts. On a évacué nous-mêmes la salle et ça a été la seule fois. Donc pour dire que voilà, même chez les punks, on trouve des fachos comme des anards et on trouve toutes sortes de gens en fait. Mais nous, c'était un lieu vraiment éclectique au niveau musical, quoi.
Non, juste, c'est un petit côté anecdote, mais est-ce que quelqu'un se souvient qu'il y a eu Conflict qui a joué à Lyon et il y avait les fachos qui étaient rentrés en mode casual, tu vois, ils avaient enlevé leur truc bleu, blanc, rouge. Et avant que Conflict monte sur scène, il y a un pote qui est monté et qui a dit c'est des fachos, ils se sont mis en mode clean. Les types se sont fait marave, quoi, mais éjectés, marave. Et c'était grandiose. Ça, c'était l'anecdote. Et sinon, il y a un truc que je voulais rajouter tout à l'heure quand je parlais des influences, d'arriver à Volnitsa, de rencontrer des gens plus âgés, plus politisés. C'est la traque du rapport de pouvoir, la traque de tout ce qui peut se passer dans un collectif. Et ça, c'est l'héritage clairement du féminisme radical des copines. Et je pense, moi, c'est un truc, on est beaucoup à avoir été influencés par ce truc, c'est que dans chaque collectif, il y a un rapport de pouvoir qui s'installe. Et cet héritage, en tant que mec, je peux pas dire féministe, machin, mais cet héritage culturel, c'est la traque du rapport de pouvoir. Où qu'il se trouve, où que tu l'identifies, au coin d'un bar, dans un collectif, dans une rue. Et ça, voilà, ça m'était sorti de la tête, mais...
À fond.
Aujourd'hui, à jamais.
Je crois que c'est un peu l'héritage des Tchéka aussi, même l'héritage de 50 ans de... ou je ne sais pas combien d'années d'Union soviétique, qui a beaucoup pesé sur tout le mouvement révolutionnaire, même les anards, les situs, les marxistes, les hétérodoxes et tout ça, et qui fait que... c'est vrai que moi, je trouvais qu'on se jugeait beaucoup dans les années 80-90, et maintenant, je suis peut-être un peu éloigné, mais le peu que je vois de l'autonomie, elle est plus puissante, elle se juge moins, elle est plus... Il y a peut-être moins ce côté de Tchéka, il est encore là, mais en tout cas, c'est un truc qu'il faut se méfier, quoi. Toujours l'opprimé peut être oppresseur et on peut. Il faut qu'on le sache, quoi. Il faut qu'on le sache dans nos actions, quoi.
Je te remercie. Je vous propose de clore là ce débat qu'on peut prolonger dans le hall. Voilà, sur les lieux, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses. Que la question qui était posée par Marquis, il est où le rock? Et puis on dit, mais là, on est dans le punk. Donc c'est aussi tout ce croisement qui fait que le punk, qu'on a quand même largement abordé du côté musical, on s'aperçoit qu'il n'est pas seulement sur l'aspect musical, même s'il y a des programmations, même s'il y a des choses qui se font en termes de programmation, on s'aperçoit qu'il y a des logiques de création, d'initiative, parce que là, on aurait pu faire, par exemple, tout à l'heure, quand tu disais le Pesner, mais avant le Pesner, comment se multiplient les initiatives les unes après les autres, comment on fait Grande Zéro, comment on fait les différents squats. Ça fait partie, effectivement, de l'histoire du punk, qui ne se résume pas, du coup, à un moment musical ou à une initiative, une esthétique musicale, mais c'est vraiment quelque chose qui continue à traverser. Et quand on dit, ce sera ma conclusion, mais quand on dit que le punk est mort en 78, certes, on peut le dire, en revanche, ça suppose aussi, je trouve cette position toujours très, alors à la fois très intéressante parce qu'elle nous amène à réfléchir, mais arrête, laisse-moi parler, Colin. La question qui se pose justement, c'est de savoir quand on affirme le punk meurt en 78, ça veut dire qu'en même temps on nie toute cette logique qui continue à fonctionner aujourd'hui avec des modalités différentes, avec des logiques différentes, qui continuent à être une logique alimentée peut-être par quelque chose qui, effectivement, dans le champ musical, a pris une force durant quelques années et s'est assez facilement estompé. Mais on l'a vu tout à l'heure sur la question de la distribution. Ça prend d'autres formes aujourd'hui, ça se renouvelle. Qu'il y ait Internet ou pas Internet, les questions sont les mêmes. Et que finalement, et la question de l'histoire du punk en France, que le mouvement, enfin, que le projet PIN, Punk is not dead, poursuit depuis maintenant quelques années et va poursuivre encore, de scène en scène, puisqu'il y a Lyon, mais il y en aura d'autres, on ira à Dijon, etc. Il y aura Saint-Étienne. Saint-Étienne, alors ça c'est un point important. Non, un truc important, alors là on est sur la scène punk à Lyon. Colin, s'il te plaît, laisse parler à Stéphane, moi, s'il te plaît. Voilà, moi aussi. À ce point. Non mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la scène punk à Lyon, comment on définit géographiquement? La question s'est posée. Est-ce qu'on réduit à Lyon intramuros? Est-ce qu'on prend autour de Lyon? Est-ce qu'on va jusqu'à Givors? D'ailleurs, la scène, c'était de Givors au Troxon. Est-ce qu'on va à Saint-Étienne? La première réaction, ça a été de dire Saint-Étienne, c'est pas Lyon. Eh bien, justement, moi, je suis plutôt sur cette logique que tu dis. Rive de Gier, Saint-Étienne, Saint-Étienne-Lyon, tout ça, c'est des connexions qu'il faut penser en termes de circulation, en termes de lieu, en termes d'énergie. Je vous remercie.
Je voudrais remarquer que le Pesner, c'était à Villeurbanne, justement, c'était pas
oui,
à Lyon.
C'était à Villeurbanne,
parce
oui.
Parce que, justement, c'était des gens de gauche, quoi, enfin, et que c'était possible de faire ça ici et pas à Lyon, quoi.
Que crève ce meilleur moment.
Nous, il y a longtemps qu'il était mort.
Un petit moment encore et discuter avec les gens qui ont envie de discuter avec vous. Merci à vous.
J'en profite pour dire que Cyril Michaud et la bibliothèque font justement un travail très intéressant pour essayer de rassembler ces souvenirs épars et ces tranches de passé lointains, et que c'est la toute première fois qu'effectivement quelque chose d'institutionnel, aussi institutionnel que la bibliothèque municipale de Lyon, s'intéresse à ça, et c'est très bien.
Voilà, merci à vous quatre.